On recommence. Voici les sports avec Ray.
Ben oui, pourquoi pas. Les Rams ont gagné hier 27-24 sur les Buccaneers à Tampa Bay. Avant de parler du match, c'était une première dans l'histoire de la Ligue nationale de football. Les sept officiels, il y a sept arbitres dans un match de football, étaient tous des arbitres de couleur. C'est la première fois que le groupe d'officiels au complet était des noirs pour un match de la NFL. C'est pas une gang qui travaille ensemble normalement. On a fait un événement spécial pour le Monday Night, et puis ben voilà, une première hier soir dans la Ligue nationale de football. Pour ce qui est du match en tant que tel, très bon match, très serré, et les Rams ont gagné donc sur un placement de Matt Gay, un ancien des Buccaneers, avec un peu moins de 3 minutes à jouer au quatrième quart. Tom Brady a été intercepté 2 fois en deuxième demi, et après le match, il a pris le blâme, surtout sur la deuxième interception. Il dit « J'ai mal lu la défensive des Rams, et je me suis fait avoir pour cette deuxième interception qui a mis un terme aux chances des Buccaneers ». Puis c'est pas surprenant de se faire avoir par la défensive des Rams. C'est une des caractéristiques des équipes de l'entraîneur-chef des Rams, Sean McVay. Ça commence tout le temps pareil. Les 11 joueurs sont à peu près toujours positionnés de la même façon au début.
Ah,
ils
ouais?
montrent une image. Puis ensuite, il y a beaucoup de mouvements. C'est là que les carrières se font avoir. Même un vieux routier comme Tom Brady, hier, est tombé dans le piège. Puis en attaque, c'est la même chose. Très souvent, ils ont la même formation, pas beaucoup de modifications, mais beaucoup de mouvements et beaucoup de croisés entre les receveurs, puis des feintes, des play-action. Puis Sean McVay est une jeune tête de football. Il a 34 ans. Puis c'est déjà sa 3e ou 4e saison à la barre des Rams de Los Angeles. Et voilà, les Rams, c'est une grosse victoire pour eux hier avec les 3 passes de toucher, entre autres, du carrière Jared Goff.
J'ai trouvé que Tom Brady puis Pierre Vercheval hier en a fait une analyse. Je l'écoutais en français au complet hier.
Brady.
Puis d'ailleurs, hein?
Brady. Tom Brady.
Ouais, il parlait de, c'est ça, et Vercheval disait, sur la mauvaise lecture de Tom Brady, là, il l'a dit tout de suite. Il dit, voyons, comment ça qu'il n'a pas vu la permutation des deux gars qui étaient loin? Il dit, c'était clair.
Facile
dit,
à dire à TV.
Ouais, non, ouais, je sais même, il dit, c'est pas un gros move de football. Mais il dit, il était concentré sur sa passe, puis le gars venait complètement de l'autre côté du terrain.
Il l'a pas vu.
Il l'a vraiment pas vu. Fait que,
mais. Même un vieux comme Tom Brady, tu pensais comment, ça prend quand même des formations, puis des jeux complexes pour mêler un gars comme Tom Brady. Parce que probablement que Tom Brady, présentement, par rapport à 10 ans, puis au début de sa carrière, il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas vu là, dans le football. Là.
Mais ses passes qui étaient toutes de plus de 15 verges hier...
Mais de la misère. Il y en a une qui a flotté. Là,
elle a flotté trop loin. Il n'était pas précis. Il y en a une que Evans a essayé de pogner. Était complètement à l'extérieur du terrain. Fait que même s'il l'avait attrapé, il n'était pas bon.
Un vieux cheval. Il est fini.
Non, je dis pas ça. Au contraire. Puis tu vois qu'il veut gagner. Puis ils vont se relever de ça.
Dans la conférence nationale, ils sont corrects là, parce que c'est plus faible un peu. Ils vont faire les séries, sauf qu'hier, la défaite d'hier, ça leur complique la tâche pour gagner la division. Parce qu'ils sont derrière les Saints de la Nouvelle-Orléans, puis les Saints les ont battus 2 fois. Donc, au bris d'égalité, ils sont dans le trouble un petit peu, les boucaniers.
Bon, mais ils vont être des playoffs.
Oui, ils devraient être des séries.
L'étape sera plus longue.
J'ai aimé leur costume, moi, hier. La couleur du costume des
C'est quoi, ça? C'est pas brun, c'est pas gris, c'est pas noir.
C'est éteint.
Ah, éteint. T'en plains ça?
C'est ça.
Hein, qui t'a dit ça, toi?
Je l'ai cherché hier. Parce qu'on s'astinait, ma blonde et moi. Elle disait que c'était noir, moi je disais que c'était brun.
OK.
Je pense qu'on a tous les deux raison. C'est une
Mais éteint,
c'est du gris.
Ouais.
Gris et foncé,
c'est
évidemment.
Vrai que c'était beau comme couleur.
Très beau.
Oui, très vrai. Beau. Alors que les Rams, c'est assez laid.
Ouais, les Rams, c'est comme s'il n'y avait pas de chandail, puis ils en ont prêté un en arrivant au stade. Hein?
Ouais, mais
c'est un chandail qui traîne comme au Peps de l'Université Laval. Il y a toujours un set de chandail qui est là si jamais vous n'avez pas le vôtre.
Ouais, parce qu'il était jauni. Ouais, mais les Remparts, Pascal, je pense qu'elle a un chandail des Remparts de cette couleur-là. Ouais.
Beige crème.
Tu le disais l'autre jour, on en parlant dehors des zones, tu disais que les Remparts avaient joué avec ça. Quelques saisons seulement.
Oui.
Fait que, s'ils ne l'utilisent plus maintenant, ils sont vraiment blancs.
Ils ont changé, c'est blanc et rouge. Le chandail rouge est très beau, celui des Remparts présentement. Le crème, je crois plus qu'il est en rotation. Il semble que non.
C'est assez. Ils ont tout ramassé. C'est un joueur avec qui tu as pogné, ça? Ou? Oui, OK, je sais. Oui,
c'est connu.
Et voilà, donc, c'était
la
fin de la semaine numéro 11. Je vais continuer parce que là, vous voyez bien qu'on rentre dans des détails qui intéressent personne.
Les vraies questions.
Ils sont pas fondées.
Non, c'est ça, mais ça. La semaine numéro 11 est terminée. Semaine numéro 12, ça débute avec le Thanksgiving. Jeudi, il y aura 3 matchs à l'affiche, comme à l'habitude. Mais la COVID-19 s'est invitée encore un peu plus dans les équipes de la NFL. Les Ravens de Baltimore sont les plus durement touchés en ce début de semaine. Deux de leurs porteurs de ballon et deux réguliers, Mark Ingram et J.K. Dobbins, ont été placés sur la liste de joueurs incapables de jouer à cause de la COVID-19. Puis comme le match a lieu jeudi, ben, je crois pas que ces deux gars-là pourront être en uniforme contre les Steelers à Pittsburgh. Et le receveur de passe des Vikings, Adam Thielen, lui aussi, a contracté la COVID-19. Il y en a plusieurs, là. Il y en a beaucoup dans la NFL.
Peut-être que la COVID, ça se déclenche quand t'es frappé solidement. Parce que Thielen, il s'est fait cogner solide.
Je pense que tu l'aurais pogné en tombant au sol la semaine dernière.
Ah,
oui.
Ah, j'ai pas tombé tant que ça. Arrêtez de rire de moi, là.
Hey, on rit pas avec. On rit pas de toi, on rit avec toi.
Voyons donc. On dirait que vous êtes tous des petits Éric Duhem.
Dans la bulle du centre Vidéotron, hier après-midi, les Remparts ont subi un revers de 3-0 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Un jeu blanc à l'affiche d'Alexis Schenck. C'est une première défaite en 6 matchs en temps réglementaire pour les Remparts cette saison. Puis en soirée, les Cataractes de Shawinigan ont gagné leur premier match dans la bulle 4-3 contre Victoriaville sur un but de Vassili Ponomarev. Reste seulement une équipe qui n'a pas gagné dans la bulle au centre Vidéotron, ce sont les Voltigeurs de Drummondville.
Est-ce que pour Victo, Coulombe a scoré?
Olivier? Non.
Olivier? Non,
que non.
Parce qu'il jouait contre son frère?
Il jouait contre son frère. C'est la première fois qu'il joue un contre l'autre dans le junior majeur.
Ah ouais, puis ben, même dans l'hockey mineur, ils ont toujours joué ensemble.
Ouais.
Fait que même Midget 3, ils ont joué ensemble. Fait que c'était la première fois qu'il jouait un contre l'autre.
Oui.
Puis je me demandais si.
Il semble que
ça doit être spécial jouer contre son frère. Ça doit être motivant de jouer contre son
jumeau.
Malgré des jumeaux, hein. Des jumeaux, c'est pas pareil. C'est pas des vrais frères.
Tu passes à la rouge dans le warm-up, un petit coup de bâton, c'est pas.
Non, ça, c'est des vrais frères. Des vrais frères vont se frapper, là, oui.
Les frères Hunter se sont battus. Les frères, frères Sutter se sont battus.
C'est pas la rumeur. Dale et Mark Hunter se sont vraiment battus un contre l'autre.
Il me semble que
ou,
oui.
Ou dans la même mêlée. Oh. Hey, un contre
Dave
l'autre.
Dave Hunter aussi était, mais ça. Dave Hunter, il jouait avec les Oilers d'Edmonton.
Ou les Flames, non? Les Oilers, okay, je me souviens pas. C'était le frère plus vieux, ça, ou quoi?
Ouais, il me semble.
Alors, les autres, ils étaient frères à cause du nez, hein.
Mais Dave Hunter, je me demande s'il est parent.
Ouais, je pense pas.
Je pense pas. Moi mais les Sutter se sont battus.
Okay.
Sutter,
un contre l'autre?
Ouais,
ah ouais,
ouais.
Okay.
Moi, j'ai une vidéo ici, Dale contre Mark Hunter en 1984.
Canadien nordique.
Ouais. OK. Ouais. Ah ouais, OK. Un contre l'autre. Hey boy, la môme devait être fière. Mais c'est des vrais frères, ça me surprend pas.
Ouais.
On s'est tous chamoyés. Moi, je me suis chamoyé avec mon frère terrible.
Les frères Kachuk sont capables de se battre.
Je pense que oui. Ça, on dirait que tu dis ça, oui, puis que tu parles parce qu'ils sont un peu fêlés.
Ils sont dans la vie, ils sont désagréables. En fait, sur la patinoire, ils sont désagréables. Je les connais pas dans la vie de tous les jours, mais ces gars-là sont tannants là, comme une tâche.
Ouais, mais t'en
Matthew
veux dans ton
et
équipe.
Brady Kachuk, tu les veux avec toi.
Ouais.
Mais c'est déplaisant. Sur la glace, là, on dirait qu'ils cherchent toujours un mauvais coup à faire.
Ouais.
Au lieu de prendre la rondelle, eux autres, c'est un mauvais coup.
C'est quoi l'écart d'âge qu'ils ont, eux autres? C'est moins de deux ans, hein?
Oh, oui, moins de deux ans.
OK. Mais encore là, ce sont des vrais frères. Là, comprenez un peu la joke derrière ça. C'est que des jumeaux, ça agit jumeaux-jumelles.
C'est différent.
D'ailleurs, vous écouterez au canal d'investigation jumeaux diaboliques. C'est pas pareil. Les jumeaux, ça agit pas pareil. C'est très rare que des jumeaux, d'après moi, vont chicaner.
Surtout s'ils deviennent diaboliques, là, ça, c'est particulier.
Ah oui, ça, c'est pareil. Hey, quand tu fais une série qui s'appelle Jumeaux diaboliques, là, c'est parce qu'il y en a des jumeaux qui ont tué du monde, là.
Oui.
C'est connu à travers les États-Unis, là. Alors, mais ils sont pas de même. Les Coulombes sont super gentils, là.
Ouais,
je les connais.
Ils sont pas diaboliques.
Ils sont pas diaboliques.
Okay. Des Magny-Montois. Aujourd'hui, il y a deux matchs dans la bulle. Blainville-Boisbriand contre Gatineau et en soirée, Victoriaville contre Drummondville. On va surveiller Équipe Canada Junior parce que cet après-midi, André Tourigny, l'entraîneur-chef, doit procéder aux premières coupures au camp de sélection finale. Présentement, il y a 46 joueurs. C'est trop pour essayer de créer un esprit d'équipe puis de bâtir quelque chose pour éventuellement la compétition dans un mois. Donc, hier, André Tourigny disait au moins une douzaine de joueurs devraient être retranchés. Je vous rappelle qu'il y a 9 joueurs de la GMQ sur l'as, 3 défenseurs, Luca Cormier, Justin Barron et Jordan Spence. Dans l'ordre, puis là, j'ai pas vu le camp d'entraînement, bien sûr, on n'a pas accès à ça du tout, mais dans l'ordre, mes choix, c'est Barron, Spence et Cormier. On verra pour les décisions. Puis chez les attaquants, il y en a 6, Poulin, Pelletier, Mercer, Lapierre, Simoneau et Bourque. Mes choix à moi, ce serait Pelletier, Poulin, Mercer, puis les 3 autres, Bourque, Lapierre et Simoneau. Donc,
mais les 3 premiers vont faire l'équipe, là.
Pelletier, Mercer, Poulin.
Pelletier est tellement connu, un bon début de camp à date. Là. Il a scoré, puis il est sur le power play. Poulin joue
Poulin,
sa première ligue.
Ça devrait. Ligue. Samuel Poulin, ça devrait.
Il joue avec... Samuel Poulin, il donne une vraie chance. Là. Il joue avec... un joueur des Sénateurs, là. Le gars qui devait, qui était le deuxième choix derrière.
Byfield?
Ouais, il joue avec Byfield. Puis l'autre aussi, là, il est très connu, puis il est très très bon. Il joue la première ligne. C'est là va être la première ligne de l'équipe.
Samuel Poulin.
Fait que Mercer était là l'an passé. Fait qu'ils vont assurément le reprendre. Et Pelletier, comme je te disais, connu. Parce que les games, je pense que comme toi, journaliste, tu pourrais les avoir hein, par internet, les matchs intra-équipe. Il me semble que Stéphane Leroux se déplace pas, puis il a accès aux games.
C'est sûr qu'il se déplace pas. Il y a pas accès.
Ouais, il n'y a pas accès. Mais ils ont accès sur Internet parce qu'ils ont écouté les games au complet puis ils nous sortent des extraits. Fait que les défenseurs, ben là, je les connais pas. Fait que là, je me fie à ce que tu me donnes. Le point d'interrogation, c'est qu'il y a 5 goalers qui sont pas des tops nulle part.
Non.
Fait que pas été repêchés. Il y en a même 2 qui ne jouaient pas junior majeur. Il y a un gars qui goalait junior A l'année passée. Fait que c'est spécial.
Il y a un Montréalais dans le groupe.
Ouais, mais il y a un nom anglais, ça se peut-tu?
C'est Devon Levy.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est lui le plus jeune, d'ailleurs. Ça se peut-tu du groupe?
Possible.
OK.
À part de ça, Ligue nationale de hockey, Jake DeBrusque a signé un contrat avec les Bruins de Boston parce que même si on est dans le néant complètement pour une saison future, on continue de signer des contrats. 2 ans, 7,3 millions de dollars pour DeBrusque avec les Bruins de Boston.
J'ai un contrat, c'est-tu?
Et la COVID-19 s'est aussi invitée dans la Ligue nationale de hockey. 4 joueurs des Golden Knights de Vegas sont atteints de la COVID-19 présentement. Puis je termine avec 2 choses. D'abord, Raphaël Lessard aurait perdu son volant avec l'écurie de Kyle Busch puisqu'hier, KBM, Kyle Busch Motorsports, ont embauché John Hunter Nemechek, dont le père a été longtemps un pilote en série NASCAR, et on lui a dit « Tu vas piloter la voiture numéro 4. » C'est plus ou moins une surprise, je pense, pour le clan de Raphaël Lessard d'apprendre ça. Maintenant, il y aurait des négociations entamées avec GMS, l'écurie du propriétaire Maurice Gallagher, qui eux sont très intéressé au service de Raphaël Lessard. Il y a un petit problème, c'est que je crois que l'agent de Raphaël Lessard a quitté le dossier. C'était Alain Labrosse.
Il l'a quitté, c'est confirmé.
C'est Alain Labrosse qui représente Raphaël. Il n'est plus dans le dossier.
C'est ça. Il est. Raphaël lui-même a dit qu'il n'y avait pas de chicane, mais
il a
que.
Quitté.
Hein?
Il a quitté.
Ben, ils l'ont quitté.
Il s'est quitté. Fait quitter.
Il s'est fait quitter parce que.
On vous invite à quitter.
Non, mais c'est que lui, mettons, là.
Il prend le cote.
Ouais. C'est uniquement une question de dollars. Là.
Ouais,
on se demande même pas, y est-tu bon, Lessard à 19 ans, puis tout. Pis,
question d'argent.
C'est rien qu'une question d'argent. Puis si, mettons, Canac donne X montant d'argent, mais que là, l'agent québécois se prend un montant, puis là, il y a un autre montant qui va aller à l'agent américain.
Ça fait plus d'argent à aller chercher.
Ben oui, là, ça rame dans les deux. Fait que là, il est uniquement avec un agent américain, là. Il l'a nommé, je me souviens pas, là. Fait que Alain Labrosse est tassé de ça.
Bon, on verra comment tout ça va se concrétiser pour Raphaël Lessard. Puis Félix Auger-Aliassime, en terminant, hier a pris le temps de jaser avec la presse. Il est de retour à Montréal, s'est placé en quarantaine, comme il se doit. Et il a jasé pendant un bon bout de temps avec les médias. Il se dit privilégié et chanceux d'avoir pu jouer au tennis en 2020. Mais en même temps, il dit ça a été beaucoup d'incertitudes et de l'adaptation, évidemment, avec tout ce qui s'est passé. Il termine l'année au 21e rang. Il l'avait commencé au 21e rang et c'est une des raisons pourquoi il a décidé de se séparer de son entraîneur Guillaume Marx, qui est toujours un bon ami dans la vie de tous les jours, mais après 6 ans, Félix pense qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour l'amener à un niveau supérieur. Il a fait 3 finales en simple, n'a toujours pas gagné un tournoi de l'ATP en simple en carrière. Il a gagné un tournoi en double. Il dit ça me donne de la confiance et puis j'ai bien aimé cette expérience-là. Et il va aller s'entraîner très bientôt. Le repos sera pas très long pour Félix Auger-Aliassime à l'Académie de Rafael Nadal à Mallorca. Et il cherche un mentor, il cherche un entraîneur de haut niveau qui peut l'amener encore plus loin. Puis ça, il n'est pas le seul à parler comme ça. En fin de semaine, je regardais la finale de l'ATP à Londres, en Angleterre, et Dominic Thiem vient de changer d'entraîneur, ça fait pas longtemps. Pourtant, lui est 3e raquette au monde, et c'est un des frères McEnroe qui disait, c'est Nicolas Massu, son nouvel entraîneur, Dominic Thiem, qui est un ancien joueur, puis il dit, ça paraît déjà l'impact que Massue a sur Thiem dans sa façon de jouer, dans son comportement. Puis déjà, il sent qu'il est rendu ailleurs, Dominique Thiem, qui est en train de s'améliorer. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent entraîneurs. Je pense que c'est ça que Félix recherche. Un ancien joueur, et c'est pas parce que tu es un ancien joueur que tu peux faire un bon entraîneur. C'est le même principe au hockey puis dans tous les sports. Mais il y en a qui deviennent des bons entraîneurs.
Ouais, parce que Massue, ça n'a pas été un grand joueur. Toi, tu avais-tu entendu son nom avant? Oui. Ah oui, OK. Moi, je me souviens pas de tout.
Il a peut-être été top 20, là, mais il a monté quand même. Un bon joueur. Okay. Carlos Moya est devenu un bon entraîneur. C'est l'entraîneur de Nadal maintenant, sauf erreur. C'est ça qu'il cherche, Félix Auger-Aliassime. Puis nous, on les connaît moins, ces gens-là. Dans le cercle du tennis, ça se sait sûrement. Mais c'est important de choisir le bon.
C'est pour, Eugénie, ce serait un bon entraîneur.
Oui, ça, c'est une bonne suggestion, Stéphane. On va lui envoyer à Félix. Peut-être qu'il n'y a pas pensé.
Je sais pas. Hey, Ray, quelques petits mises au point. De la mise au point? Premièrement, les jumeaux sont pas tous diaboliques, là.
Ah.
C'est les jumeaux
Savard. Qui dit ça, là? Qui pourrait dire ça?
Mike et Dave Savard. Les deux jumeaux Savard du Rouge et Or.
Mais d'après moi, c'est pas eux que je croirais en premier, mais bon.
Les autres, ils disent qu'ils sont pas diaboliques. Ce sont des jumeaux sympathiques. Pas tout le temps d'accord, là, mais quand même.
C'est pas parfait, mais pas loin.
Bon.